Alors aujourd'hui, on va commencer notre cinquième sermon dans la série sur la souveraineté de Dieu. On va regarder aujourd'hui la souveraineté de Dieu sur les hommes et sur les hommes à la fois individuellement et à la fois collectivement. Alors, on va juste reviser un petit peu ce qu'on a vu jusqu'ici, de manière à ce que moi, la souveraineté de Dieu, je vois vraiment ça comme une grosse peinture, une grosse murale. Et à chaque semaine, on fait une petite partie de la murale. Alors, si on veut éventuellement avoir conscience de toute la, comment on dit en anglais, de big picture, ou de, il faut quelque part revenir de ce qu'on a vu, bien sûr pas en détail, mais au du moins se rappeler un petit peu de ce qu'on a regardé dans les leçons précédentes. Alors, dans notre premier sermon, on avait défini ce que c'était que la souveraineté de Dieu. On avait aussi examiné les raisons pour lesquelles Dieu a le droit de régner, et quelle était la nature de son pouvoir. On avait déterminé que c'était un pouvoir qui était absolu, donc il n'y a rien, absolument rien, qui échappe au pouvoir divin. C'était complet et qu'il s'exerçait sur à peu près toutes les formes possibles de ce qui existe dans l'univers. Et autre chose qu'on s'était rappelé, que les Écritures nous enseignent, c'est que Dieu ne rend pas de compte à personne. Ça, on est porté parfois à amener Dieu à la barre. Et là, c'est comme si on voudrait l'amener un peu comme un juge amène un condamné et on questionne les motifs de Dieu sur sa manière de travailler dans nos vies. Comment qu'on lui demandera pourquoi tu m'envoies ça? Il vous le dira pas. Parce que Dieu dit, ne rend de compte à personne. Mais selon les Écritures, tout ce qu'il fait dans la vie des individus comme dans la vie des nations sert toujours au plus grand bien. Alors, on sait que Dieu est sage et qu'il ne fait rien qui n'est pas rempli de bonté, de miséricorde et de sagesse. On avait vu aussi, on avait un peu constaté dans notre première leçon, l'étendue de son règne. Donc, il règne sur la création complète. Et bien souvent, quand on essaye de s'imaginer un petit peu la grandeur de la création, on est tellement en deçà de ce que c'est en réalité. C'est tellement grand ce que Dieu a fait, que même quand on se met à regarder ça en termes mathématiques, on l'avait fait un petit peu quand on avait étudié la Genèse, quand on dit qu'il règne sur tout, là, les étoiles, les planètes, partout, il règne sur la terre, sur le règne animal, sur le règne végétal, sur le règne minéral, il règne sur tout. Quand on dit règne, ça veut dire qu'il contrôle de façon absolue toutes ces choses-là. Et dans notre deuxième sermon, on avait développé l'idée que le Seigneur règne sur la création, sur les créatures inanimées. Donc, il y a des choses qui n'ont pas la vie en soi, mais il contrôle pareil. Il contrôlait aussi les éléments, la pluie, le vent, la grêle, toutes ces choses-là. Et aussi sur les créatures animées. Les créatures animées, c'est tout ce qui a la vie. Donc, dans le règne végétal, dans le règne animal et aussi dans le règne minéral. Alors, dans le troisième et quatrième sermon, les deux dernières semaines, on avait regardé que le Seigneur règne à la fois sur les anges bons et à la fois sur les anges mauvais. On avait fait une semaine sur les anges bons, on a fait une autre semaine sur les anges mauvais. Autrement dit, les démons, ce n'est pas que Dieu les empêche d'agir, mais ils ne peuvent absolument rien faire sans que Dieu les ait autorisés à faire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils doivent, ce qu'ils demandent à Dieu de faire. Alors, il n'y a rien qui arrive que les démons puissent agir dans nos vies par les tentations ou quoi que ce soit, que Dieu ne l'ait pas autorisé. Alors, il règne sur les anges bons et mauvais. Et aujourd'hui, on va regarder comment Dieu exerce son contrôle sur les vies des individus, donc ça c'est nous. Non seulement les individus qui sont sauvés, mais aussi sur les individus qui ne sont pas sauvés et aussi qu'il règne sur les hommes collectivement. Quand on parle collectivement, c'est que les pays, Dieu a le contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Des fois, on est porté à penser, « Ah, ça va mal sur la terre! » On pense que Dieu n'est plus dans l'équation. Dieu est toujours dans l'équation. C'est lui qui permet que les choses arrivent. C'est lui qui permet que les choses n'arrivent pas. Et là-dedans, il tient compte de nos prières. Quand on vient, disons, le mercredi ici, qu'on prie, parce qu'il y a des pays où les gens sont persécutés, on est juste un petit groupe de 10 personnes, 12 personnes des fois, et on demande des choses au Seigneur pour, disons qu'on prend l'exemple de l'Iran. où les chrétiens sont maltraités. Pensez-vous qu'il se produit quelque chose en Iran à cause de ce qu'on a demandé ici? Pourquoi on ne prie pas plus? C'est comme, il y a plein de choses qui se passent et on dit que quand on prie, il se passe quelque chose. Mais prions d'où encore beaucoup plus parce que l'Éternel agit toujours en fonction des prières de ses enfants. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, bien sûr qu'il contrôle autant la vie des individus sauvés, pas sauvés, autant il contrôle aussi les nations, les pays. On va tout regarder ça un petit peu en détail. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'on va voir que les individus sur la terre sont contrôlés par le Seigneur. Des choses qui sont assez bizarres à penser, des fois, que par exemple, les Écritures nous disent dans Jérémie, chapitre 10, au verset 23, il dit « Je sais, ô Éternel, que le chemin de l'homme n'est point à lui, qu'il n'appartient point à celui qui marche d'affermir ses pas. » Autrement dit, il est en train de nous dire que nous, on a l'impression qu'on contrôle nos vies, mais que ce n'est pas si nous autres que ça. Ça ne veut pas dire que ça enlève notre responsabilité. On va prendre un autre exemple, Proverbe 16, dans les versets 1, 9 et 33. À l'homme sont les dispositions du cœur, mais de l'Éternel vient la réponse de la langue. Dans le verset 9, le cœur de l'homme pense à sa voix, mais c'est l'Éternel qui a fermé ses pas. Dans le verset 33, dans le sein, on jette le sort, mais c'est de l'Éternel que provient toute décision. Alors, quand on regarde nos vies, c'est l'Éternel qui est le grand boss, qui contrôle la vie de chaque individu. Dans Proverbe 19, vous avez sûrement déjà entendu ce verset-là, 19-21, « Il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil de l'Éternel qui subsiste. » Autrement dit, ce que ça veut dire, il y a beaucoup de desseins. Autrement dit, il y a beaucoup de projets. C'est vrai, on est toujours plein de projets. Hein? On va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Mais ça dit aussi, il y a donc des desseins ou des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil de l'Éternel qui subsiste. Autrement dit, le conseil, c'est les décrets de Dieu, les décisions divines qui ont été prises de toute éternité sur nos vies personnelles qui vont s'exécuter. Dans le Proverbe 21, verset 1, pour nous montrer un petit peu comment l'Éternel est capable de travailler sur l'esprit de chacun de nous, ça dit, ce sont des cours d'eau, ou bien non, il y a des versions qui disent, c'est un courant d'eau, dans la main de l'Éternel, que le cœur du roi, il l'incline à tout ce qui lui plaît. L'Éternel est en train de nous dire que s'il est capable de prendre l'esprit d'un roi, de l'incliner à faire ce que lui veut que le roi fasse, combien plus nous, qui ne sommes pas des rois. Alors, l'Éternel a le contrôle sur l'esprit de tout homme. Il peut l'incliner où il veut. On a aussi dans Ésaïe 46, les versets 9 à 11. Et alors, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Souvenez-vous des premières choses de toute ancienneté, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui sera à la fin. Et d'avance, ce qui n'aura pas lieu. Je dis, mon dessein subsistera et j'exécuterai tout mon bon plaisir. J'appelle du levain l'oiseau de proie et d'une terre éloignée l'homme de mon dessein. Ainsi que je l'ai prononcé, ainsi je le ferai arriver. Je l'ai projeté et ainsi je l'exécuterai. » Ça, c'est des choses tellement rassurantes sur notre Dieu. Il contrôle toutes choses sur nos vies individuellement. On prend des exemples, parce qu'il y a des exemples qui sont un petit peu... C'est extraordinaire de penser ça. On prend l'exemple de l'apôtre Paul et son rôle qui était pour avoir dans le développement de l'Évangile, dans la diffusion du message de Jésus-Christ. C'est un homme, Paul. Et quand on regarde le rôle et l'influence que cet homme-là a eu dans la vie de tous les hommes de la terre, c'est incroyable. Alors, quand vous lisez dans Galates, chapitre 1, les versets 13 à 16, il dit, « Car vous avez entendu quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance l'Assemblée de Dieu et la ravageais, et comment j'étais avancé dans le judaïsme, plus que beaucoup plus que beaucoup de ceux de mon âge dans ma nation, étant bien plus que zélateur des traditions de mon père. Autrement dit, il était zélé, puis il était plus avancé que les... Dans le judaïsme, là, il était comme à la pointe, il était le top des tops. Mais dans le verset 15, ça dit, « Mais quand le Dieu qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, voulut bien révéler son Fils en moi, afin que j'en annonçasse la bonne nouvelle parmi les nations, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. » C'est drôle de penser que Dieu avait décidé, avant même que Paul vienne au monde, quel rôle il voulait lui faire jouer dans la diffusion de l'Évangile, qui deviendrait de ravageur, autrement dit, de personne qui tuait les chrétiens, à une personne qui, après, a vécu tellement de souffrances pour faire avancer l'Évangile de Dieu. Alors, on voit l'exemple que Dieu choisit de toute éternité certains de ses serviteurs. On a l'exemple aussi du prophète Jérémie et son appel au ministère. Autrement dit, c'est-tu Jérémie qui a mené venu au monde, puis s'est mis à étudier la Bible, puis s'est dit, « Ah, ben là, moi, je vais me mettre à être prophète le jour au lendemain. » Ça marche-tu de même?
Non.
Non, ça ne marche pas de même. Jérémie 1, chapitre 4 et 5. « La parole de l'Éternel me fut adressée en disant, « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses du sein maternel, je t'ai sanctifié. » Je t'ai fait prophète pour les nations. Il n'était pas encore au monde que Dieu avait décidé, c'est Jérémie, lui, il va être mon prophète dans une période de l'histoire d'Israël. Quand vous lisez Jérémie et Lamentation de Jérémie, vous voyez que cet homme-là a énormément souffert parce que le peuple était dans un état spirituel déplorable. Et le Seigneur l'envoyait avertir les gens qui se repentent puis dénonçaient leurs péchés. Ceux qui ont lu Jérémie, ils savent qu'il a été mis en prison, il a été mis dans des citernes. Et c'est Dieu qui avait décidé d'avance que cet homme-là servirait à jouer ce rôle-là à une époque précise d'Israël qui était dans une condition déplorable. C'est drôle de penser à ça, hein? Avant même qu'on vienne au monde, dans la pensée de Dieu, Dieu savait déjà qui utiliserait, dans quelles circonstances, et qu'est-ce qu'il ferait avec. Maintenant, on voit dans la vie du puissant et orgueilleux Nebuchadnezzar. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point Nebuchadnezzar, à l'époque, était un roi extrêmement puissant. C'était le roi de l'époque, c'était encore plus que le président des États-Unis aujourd'hui. Là. C'était vraiment... Il dirigeait une très, très grande partie de la terre connue à l'époque. Et cet homme-là, à un moment donné, il s'est enorgueilli, puis il s'est dit, « Voici, c'est moi qui ai tout construit ça, cette affaire-là. » Et là, l'Éternel lui a montré c'est qui était le patron. On va lire le passage. Daniel 4, versets 22 à 26. C'est toi, ô roi, toi qui as cru et pris force, et dont la grandeur s'est accrue et a atteint aux cieux, et la domination au bout de la terre. Verset 23. Et quant à ce que le roi a vu un vaillant et saint qui descendait des cieux et qui disait, coupez l'arbre, détruisez-le. Toutefois, laissez le tronçon de ses racines dans la terre, mais dans une chaîne de fer et d'airain parmi la verdure des champs. Qu'il soit baigné de la rosée du ciel et qu'il ait sa portion avec les animaux des champs jusqu'à ce que les sept ans aient passé sur lui. Telle est l'explication au roi. Et c'est la décision du Très-Haut qui va atteindre le roi, mon Seigneur. Tu seras chassé d'entre les hommes et ton habitation sera avec les animaux des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs. Tu seras baigné de la rosée du ciel. Et sept ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur l'empire des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Mm-hmm. Voyez-vous, il était rendu au point qu'il croyait que je suis puissant, je suis presque... Il se prenait presque pour Dieu. J'ai dit, OK, on va t'enseigner quelque chose ici. Il l'a envoyé manger de l'herbe pendant sept ans, comme un animal. Lui, le roi le plus puissant de l'époque. Alors, on voit-tu la puissance du Seigneur? Il prend quelqu'un d'extrêmement puissant, puis il l'envoie manger de l'herbe dans le champ. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans le verset 26, « Et quant à ce qu'on a dit de laisser le tronçon des racines de l'arbre, ta royauté te demeurera après que tu auras reconnu que les cieux dominent. » Autrement dit, pendant 7 ans, là, on t'a envoyé manger de l'herbe dans le champ comme un animal, puis c'est ça qu'il a fait. Ils ont enlevé son royaume, il n'y avait plus aucun pouvoir. Pendant 7 ans. Mais à un moment donné, pendant ces années-là, il a dû réfléchir. Et Dieu lui a fait la grâce de lui ouvrir la compréhension. Et quand il a eu reconnu que ce n'est pas lui qui menait, que c'est Dieu qui domine, que c'est Dieu qui dirige, que c'est Dieu qui contrôle, Dieu lui a redonné sa royauté. Spécial, hein? Alors, bien entendu, dans les Saintes Écritures, il y a des exemples comme ça, ça fourmille littéralement, où on voit la souveraineté de Dieu qui s'exerce sur la vie des individus avec une très grande puissance. Dans Ésaïe 64, verset 8, ça dit « Mais maintenant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es celui qui nous forme, et nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » Alors, il faut tenir des leçons de ça, il faut s'en souvenir. La souveraineté de Dieu, est-ce qu'elle s'exerce dans tous les domaines de notre vie ou s'il y a des domaines que ça nous appartient? Ça? Tous les domaines de notre vie. Les Écritures nous enseignent que c'est le Seigneur lui-même qui a déterminé le nombre de jours qu'on va vivre sur cette terre. C'est drôle de penser à ça. Hein? Moi, des fois, je dis à Lucie, je ne sais pas combien il me reste d'années dans le ministère. Elle dit, je ne le sais pas. Mais moi non plus, je ne le sais pas. Peut-être 5 ans, peut-être 3 jours, peut-être 1 mois, peut-être 6 mois, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu a déterminé le nombre de mes jours comme il a déterminé le nombre des vôtres. Parce que ça dit, dans le psaume 139, les versets 14 à 16, « Je te loue de ce que j'ai été formé si admirablement, si merveilleusement. Tes ouvrages sont merveilleux et mon âme le sait très bien. Ma substance ne t'était point cachée quand j'ai été fait dans le secret, tissé comme de la broderie dans les lieux bas de la terre. Quand je n'étais qu'un peloton, tes yeux m'ont vu, et dans ton livre étaient marqués tous les jours, déjà déterminés avant qu'aucun n'existât. Avant même qu'on soit au monde, le Seigneur savait quand on viendra au monde, où on viendra au monde, et il savait le nombre de jours qui nous était accordé, parce que ça me dit qu'il nous a accordé un nombre de jours qu'il a lui-même déterminé. Ça fait que, quelque part, c'est bon de réfléchir à ça. Et une autre chose, que c'est rare que les hommes pensent en ces termes-là, des fois, on est porté à penser les succès puis les échecs des hommes, on est porté à penser que ça dépend juste de nous autres. Ah, j'ai réussi, j'ai plein d'argent. Donc, c'est moi. Là, on agit un petit peu comme Nebuchadnezzar. Alors, le Seigneur dit que dans le psaume 115, il règne sur les succès et sur les échecs des hommes. Il dit par exemple dans le psaume 115, verset 7, « Car c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. » Prenons l'exemple de David, un berger dans le champ. Il n'était pas socialement très élevé. Dieu le prend et fait de lui le roi d'Israël. Donc, est-ce qu'il l'a élevé?
Oui.
Est-ce qu'on voit des exemples où il y avait quelqu'un d'élevé et qu'il l'a descendu? Oui. Donc, Dieu a le pouvoir d'élever les hommes, il a le pouvoir de baisser les hommes. On est porté à penser aussi que notre enrichissement personnel, ça aussi, ça dépend de nous autres. On est porté à ça. Hein? Est-ce que c'est ça que les Écritures nous enseignent? 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. « C'est l'Éternel qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre au séjour des morts et qui en fait remonter. C'est l'Éternel qui appauvrit et qui enrichit. » Est-ce que c'est l'homme que les Écritures nous disent? C'est l'Éternel qui enrichit et qui appauvrit, qui abaisse un et élève l'autre. Il tire de la poussière le misérable. Il relève l'indigent de la fange, autrement dit, c'est de la boue. pour les faire asseoir avec les princes. Autrement dit, il est en train de dire qu'il est capable de prendre quelqu'un qui est comme, on dirait, un bon aujourd'hui, là, puis de le faire monter dans les plus hautes sphères de la société. Puis il est capable de faire l'inverse aussi. Prendre quelqu'un des plus hautes sphères de la société puis le faire dégringoler jusqu'à zéro. Parce que ça dit, il leur donne en héritage un trône de gloire, car l'Éternel sont les fondements de la terre sur lesquels il a posé le monde. Est-ce qu'on serait porté à penser que le Seigneur est capable de contrôler notre sommeil?
Oui.
Ben oui. 1 Samuel 26, au verset 12. Et David, dans l'histoire, là, c'est que Saül courait après David, voulait le tuer. Et il courait de lieu en lieu, de lieu en lieu. Alors, ça forçait David à se promener, puis à avoir des lieux où il s'arrêtait pour coucher, puis tout ça. Et ici, on a l'exemple du roi Saül qui était arrêté pour dormir. Puis, on voit quelque chose qui s'est passé. Alors, on va lire ça. Et David prit du chevet de Saül la lance et la cruche à l'eau, et ils s'en allèrent. Et personne ne les vit, ni ne les reconnut, ni ne s'éveilla, parce qu'ils dormaient tous, car un profond sommeil était tombé sur eux de la part de l'Éternel. Autrement dit, il y a eu l'audace d'aller dans le camp du roi qui voulait le tuer, de ramasser sa lance, pour montrer, et l'Éternel a permis qu'il n'y ait pas un qui se réveille. Ceux qui se souviennent de l'histoire après, là, vous savez qu'il a crié à celui qui était son gardien, « Hey, coudonc, tu ne sais pas garder ton roi, toi, je t'en ai, voici la cruche d'eau, voici la... Ah, » Mais la parole nous dit bien que celui qui contrôlait le sommeil de ces gens-là, c'était vraiment Dieu lui-même. On a aussi l'exemple dans Esther, versets 1 à 4. « Cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi, et il dit d'apporter le livre des mémoires, les chroniques, et on lut devant le roi. Il se trouva écrit que Mardochée avait fait savoir au sujet de Bigthan et de Térèche, les deux eunuques du roi, d'entre les gardes du seuil, qu'ils avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. » Hey, ce n'était pas un petit roi, là. Assuérus, c'était un roi extrêmement puissant. Alors, il y avait deux gardes qui avaient osé essayer de tuer le roi. Et qui ils avaient déclaré? Mardochée. Et là, le roi, dans le verset 3, il dit, « Et le roi dit, « Quel honneur et quelle grandeur a-t-on conféré à Mardochée à cause de cela? » Et les jeunes gens qui servaient le roi dirent, « On n'a rien fait pour lui. » Et le roi dit, « Qui est dans la cour? » Or, Aman arrivait dans la cour extérieure de la maison du roi pour dire au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Et on se souvient de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est lui qui a fini pendu. Quelque part, l'Éternel se servait qu'il contrôlait le sommeil du roi pour pas qu'il dorme. Puis là, lui, vu qu'il ne dormait pas, il a dit, bon, on va faire venir les historiens, puis lis-moi l'histoire, là, l'histoire de mon pays. Là. Fait que là, il a ramené cette histoire-là, et ça a fait en sorte que c'était Aman qui était dans la cour. Et on sait qu'il a pris, il a fait prendre Aman, qui voulait aller faire pendre Mardochée, et il lui a dit, là, tu vas te promener avec lui, puis tu vas crier, voici de quelle façon on traite celui qui aide le roi. Humilié au bout, Aman, c'était l'orgueil en personne. Dieu a permis des choses extraordinaires parce qu'il contrôle le sommeil des individus. Fait drôle parce que je m'arrête un petit peu sur le sommeil des individus. Je lisais ce matin, dans ce petit volume-là, c'est « How to successfully memorize and review scripture ». Comment mémoriser et reviser les Écritures avec succès. Et cet homme-là, c'est un homme qui a passé sa vie aux États-Unis à se promener d'une église à l'autre dans le but de promouvoir l'apprentissage et la mémorisation des Écritures. Et il donne 25 raisons pour lesquelles on se devrait de faire un effort d'apprendre les Écritures. Et parmi les 25 raisons, il y en a une qui m'a frappé, parce que je lui disais ça ce matin avant de venir à l'église, le sommeil doux. Oh, c'est intéressant ça. Des fois, il dit, celui qui apprend les Écritures va avoir un sommeil doux. À quelque part, c'est surprenant. Puis là, il y a des versets, je ne sais pas le but de ce matin, mais c'est juste de montrer que le Seigneur, il peut, disons que tu as des troubles de sommeil, bien, il dit le moyen de t'en sortir. Apprends des versets, puis tu vas avoir un sommeil doux. Pensez-vous qu'il fait des farces, le Seigneur?
Non.
Et si il dit ça, là, Fais-le, puis tu vas voir que ça marche. Le Seigneur, est-ce qu'il contrôle notre santé? Est-ce qu'il contrôle nos maladies? Oui. Deutéronome 28, versets 21 à 22, 27 à 28 et 35. Alors ici, l'Éternel est en train de parler à son peuple, puis leur dit, « Si vous obéissez, voici ce qui va vous arriver. Puis si vous désobéissez, voici ce qui va vous arriver. » Et parmi ça, c'est l'envoi de maladies. Voyez-vous ici, l'Éternel fera que la peste s'attachera à toi jusqu'à ce qu'il t'ait consumé de dessus le sol où tu vas entrer pour la posséder. L'Éternel te frappera de la faudra aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est sûrement de maladie. La ptitie, de la fièvre, de l'inflammation, de la chaleur brûlante et de l'épée, et de la flétrissure et de la pourriture des blés. Et ces fléaux te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 27, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, de tumeurs et de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. Verset 28, l'Éternel te frappera de délire et d'aveuglement et de stupeur. Verset 35, l'Éternel te frappera sur les genoux et sur les cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il t'en frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ça a l'air contrôle nos maladies. Deux Rois, chapitre 20, versets 1 à 5. On a l'exemple du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, les Écritures disent que ça a été un des bons rois d'Israël. C'est un bon roi d'Israël, mais quand le Seigneur lui a dit, va avertir les gens de ta maison, donne tes ordres parce que tu es à veille de mourir. On sait qu'Ézéchias, il n'a pas aimé l'idée. Et là, il a imploré Dieu. « Ah, ben là, Seigneur, je t'ai toujours bien servi, fais quelque chose. » Et le Seigneur lui a donné 15 ans de vie supplémentaire. Alors, dans le verset, chapitre 20 de 2 Rois, verset 1 à 5, « En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et Ésaïe, le prophète, fils d'Amos, vint à lui et lui dit, « Ainsi dit l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. » Et Ézéchias tourna sa face vers la paroi et pria l'Éternel en disant, « Oh, Éternel, souviens-toi, je te prie que j'ai marché devant ta face en vérité, avec un cœur entier, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. » Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. Il a broyé. Et dans le verset 4, ça dit, « Et il arriva qu'Ésaïe n'étant pas sorti jusqu'au milieu de la ville, quand la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Retourne, et dit à Ézéchias, conducteur de mon peuple, « Ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Et si on lit un petit peu le passage, l'Éternel lui avait accordé 15 ans de vie supplémentaire. Autre chose qu'on a besoin de savoir comme chrétien, c'est que le Seigneur est le maître de la rétribution. Qu'est-ce que ça veut dire, la rétribution? La rétribution, ça veut dire que quand on agit, qu'on fait un péché, qu'on s'enracine dans un péché, disons que c'est l'orgueil, bien, le Seigneur va rétribuer dans le sens que il va toujours, si tu es orgueilleux, il va t'humilier. Il va toujours prendre ton péché et il va te donner des choses pour te dompter, autrement dit. La rétribution, c'est que il te donne selon ce que tu as fait. Vous remarquez ça, que les personnes orgueilleuses sont souvent très humiliées. Mais c'est le Seigneur qui permet ça. Regardez, ça dit dans Jérémie 17, « Moi, l'Éternel, qui sonde le cœur, qui éprouve les reins, afin de rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses actions. » Autrement dit, le Seigneur se sert de tes péchés pour te corriger. Et des fois, ça fait bobo, comme on dit, ça fait mal. On a fait le tour à peu près de la question, on pourrait aller beaucoup plus loin là, dans la question qui dirige les vies des individus, sauvés et non sauvés, de façon contrôlée. Et on va voir le deuxième point, qu'il règne souverainement sur les hommes collectivement. Donc là, on parle de pays, on parle de dirigeants de grands pays. Alors ça dit dans les Écritures, que c'est le Seigneur qui établit les royaumes et qui établit les dirigeants. On est porté à penser, bien, c'est nous autres qui les a élus, tout ça. Mais le Seigneur, s'il ne voulait pas qu'un homme rentre là, il ne rentre pas. Puis si le Seigneur veut que ce soit tel homme, c'est lui qui permet. Puis c'est pas le fait qu'il donne un, Un dirigeant à un pays, ce n'est pas toujours nécessairement une bénédiction. Des fois, il donne un dirigeant à un pays, c'est dans le but de corriger la nation, dans le but de la châtier à cause de ce qui se passe dans le pays. Alors, on voit, par exemple, dans le Daniel 2, versets 20 et 21, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu, le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à toi qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est aussi lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et qui élève les rois. » Déposer, ça veut dire l'enlever de sa place. Élever, ça veut dire qu'il n'est pas roi, puis il devient roi. Il peut mettre sur le trône comme t'enlever du trône. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. On voit un petit peu plus loin dans Daniel 5, versets 20 et 21. Et à cause de la grandeur qu'il lui donna, tous les peuples, les nations et les langues étaient devant lui dans le tremblement et dans la crainte. Il tuait qui il voulait et il laissait vivre qui il voulait. Il élevait qui il voulait et il abaissait qui il voulait. Mais lorsque son cœur s'est élevé et que son esprit a pris force pour s'enfler d'orgueil, il a été abattu de son trône royal et on a fait passer loin de lui sa gloire. Et il fut chassé d'entre les fils des hommes et son cœur fut rendu semblable à celui des animaux et il eut son habitation avec les ânes sauvages. On le nourrit d'herbe comme les bœufs et son corps fut baigné de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il sût que le Dieu Très-Haut domine sur l'empire des hommes et qu'il y élève qui il veut. Voyez-vous, ce n'est pas des hasards, les dirigeants qu'on a. Dieu contrôle ces choses-là, soit pour bénir une nation ou soit pour châtier une nation. On ne se rend pas compte souvent de ça. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous demande dans les Écritures de prier pour nos dirigeants. Le Seigneur aussi, une autre chose, il fixe la durée et la limite des territoires des pays. On a eu une époque où les Romains étaient extrêmement puissants, ils prenaient très grand de territoires géographiques, et à un moment donné, les Romains sont venus, quoi, c'est l'Italie aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était grand, là, c'était tout autour de la mer Méditerranée, là, c'était extrêmement grand. Alors, c'est Dieu qui contrôle ces choses-là. Dans Actes 17, versets 22 à 26, Alors, Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, je vous vois en toute chose comme fort adonné à la crainte des divinités. Car en pensant et en considérant les objets de votre culte, j'ai trouvé même un piédestal sur lequel il est écrit « À un Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez par votre piété sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, ce Dieu étant lui Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point en des temples faits par des mains. Il n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Mais c'est le verset 26 qu'il faut retenir. Et il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation d'hommes sortis d'un seul sang. Voyez-vous, la théorie d'Hitler, là, que son sang, le sang des Aryens, était mieux que les autres, tu aurais pu prendre juste Acte 17, 26, puis tu venais juste de tout détruire son affaire, si tu crois Dieu. La suite du verset, ça dit, là il parle de Dieu, « ayant déterminé les temps ordonnés ». Autrement dit, le temps que le pays va durer, puis les temps ordonnés d'avance et les bornes de leurs habitations. Autrement dit, les pays, le Seigneur, c'est lui qui établit les frontières, soit qu'il les élargit ou soit qu'il les rétrécit. C'est ça que ça dit. Puis il a dit combien de temps un pays va durer. Il y a des pays qui n'existent plus aujourd'hui. Et le Seigneur, c'est lui qui est au contrôle de ça. Maintenant, est-ce que le Seigneur utilise les nations et leurs chefs dans l'exercice de sa volonté? Ça, c'est assez spécial parce que le Seigneur est en train de nous dire qu'il est capable de prendre l'esprit d'un roi païen puis de lui faire faire ce qu'il veut. On s'arrête. On va regarder 2 Rois, chapitre 19, versets 20 à 35, mais on va juste lire à partir de verset 25. « N'as-tu pas entendu que j'ai fait ceci dès longtemps, dès les jours d'ancienneté, j'en ai formé le dessein. Maintenant, je le fais arriver. Tu es là pour renverser en monceau de ruines des villes fortes. » Dans le verset 28, « Parce que tu te démènes contre moi et que ton insolence est montée jusqu'à mes oreilles, je vais mettre mon crochet à ton nez et mon frein entre tes lèvres et je te referai retourner par le chemin d'où tu es venu. » C'est spécial, ça. On parle d'une nation. Puis le Seigneur est en train de dire que cette nation-là prétendait qu'elle était pour dominer Israël. Il dit, voici ce que je vais faire. Je vais te mettre un crochet dans le nez, puis je vais te mettre un mort, puis je vais te faire retourner par là où je veux que tu t'en ailles. Puis, c'est comme... quand on lit le reste de l'histoire là, de ce passage-là, on sait que l'Éternel avait permis que l'ange de l'Éternel sorte et qu'il fasse mourir 185 000 soldats dans une seule nuit, tous tués par l'ange de l'Éternel. Verset 35, ça dit, « Et il arriva cette nuit-là que l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp d'Assur, ça c'est les Assyriens, 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous des corps morts. » De voir que l'Éternel est capable de prendre des rois puissants et d'agir avec eux comme nous, on agirait avec un cheval ou un bœuf. Si vous mettez un crochet dans le nez d'un cheval, puis vous mettez vous allez le faire aller où ce que vous voulez qu'il aille. La même chose que Dieu fait avec une nation. Dans le verset, dans Esdras, au chapitre 1, les versets 1 à 3, ça, c'est assez extraordinaire aussi. Et la première année de Cyrus, roi de Perse. La Perse, là, c'était un pays extrêmement puissant à l'époque. On parle de Cyrus qui était le roi. Il dit, « Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Qu'est-ce qu'il avait dit Jérémie? Au bout de 100 des... Là, je vous envoie à Babylone, au bout de 100 des 10 ans, vous allez sortir, vous allez revenir à Jérusalem, vous allez reconstruire votre temple, la ville. Alors, il dit, prononcé par la bouche de Jérémie, « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit circuler dans tout son royaume une publication, et même par écrit, en disant, « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même, il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, et qui est en Juda. Qui d'entre vous, de tout son peuple est disposé, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda et qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel, Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Dieu est capable de disposer l'esprit d'un roi et lui n'avait pas intérêt à ce qu'Israël se reconstruise. Tout ça. Et il dit, à cause que j'ai fait une prophétie qui s'était pas arrivée comme ça, voici, je vais me servir de toi. Et le roi lui-même volontairement a mis des conditions favorables au peuple d'Israël pour qu'ils puissent retourner dans leur pays et reconstruire Jérusalem, qui avait été rasée là, au sol, comme on dit. C'est drôle de penser que l'Éternel est capable de faire des choses pareilles, hein? Servir d'un roi païen pour favoriser la reconstruction de Jérusalem. Alors, l'autre point qu'on va regarder, c'est que le Seigneur donne de l'accroissement à une nation où les faits périr. Dans Job 12, versets 21 à 25, ça dit, « Il répand le mépris sur les nobles et relâche la ceinture des forts. Il dévoile du sein des ténèbres les choses profondes et j'ai fait sortir à la lumière l'ombre de la mort. » Voyez-vous, verset 23, « Il élève les nations et les fait périr. » Les Romains, ils ont-ils déjà été assez puissants? Ils n'ont plus aucune puissance. Ils ont élevé, ils ont baissé. Et il étend les nations et les resserre. Autrement dit, permet qu'une nation prenne de l'ampleur, devienne de plus en plus puissante. Les resserrer, ça veut dire qu'il permet que les frontières se rétrécissent. Il ôte le sens au chef du peuple de la terre, les fait errer dans un désert sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres, ils n'ont point de lumière, il les fait errer comme un homme ivre. Maintenant, est-ce que le Seigneur observe les nations? Est-ce que le Seigneur juge les dirigeants des nations? Oui, c'est ça que les Écritures nous enseignent. Psaume 66, verset 7. Il domine par sa puissance éternellement. Ses yeux observent les nations, que les rebelles se gardent de s'élever. Psaume 75, verset 7. C'est Dieu, car c'est Dieu qui est juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Ça, c'est une affaire extraordinaire. La première fois que j'ai pris conscience de ça, en lisant les Écritures, en lisant un commentaire, je me disais, waouh! Deutéronome 32. Autrement dit, Dieu a organisé les nations qui vivaient alentour d'Israël dans le but de disposer leurs forces militaires, de disposer toutes les choses de manière à ce que ça favorise la nation d'Israël. Dans Deutéronome 32, verset 8, ça se dit « Quand le Très-Haut donnait aux nations leur héritage, quand il séparait les fils d'Adam, il éleva les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. » Autrement dit, si la nation elle n'avait pas beaucoup de force, il s'organisait pour que ceux qui étaient autour chicanent entre eux autres de manière à ce qu'ils ne viennent pas écraser. La sagesse de Dieu là-dedans, c'est incroyable. Quand on regarde ça. Et le Seigneur, ça, on a besoin de se le faire rappeler. Parce qu'on est-tu chialeux contre la police? On est-tu chialeux contre les autorités? En général, l'être humain, on est tous un petit peu... On n'aime pas l'autorité. Pourtant, les Écritures nous avertissent dans Romains 13, versets 1 à 5, que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'y a point d'autorité si ce n'est de la part de Dieu, et les autorités qui existent ont été ordonnées de Dieu. Quand tu te fais arrêter par la police, il ne faut pas que tu dises « maudit bœuf ». Parce que ce n'est pas un bœuf, c'est un agent que Dieu a institué, a ordonné dans le but de maintenir l'ordre dans la société. Mais on est porté à dire ça, hein, toutes sortes de... Quand il s'agit des autorités, on est toujours en train de vouloir les... On ne veut pas se soumettre. Pourtant, Dieu nous dit que c'est lui qui les a institués, qui les a ordonnés et qu'on se doit de se soumettre. Dans le verset 2, ça dit « De sorte que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu et ceux qui résistent attireront un jugement sur eux-mêmes. » Moi, je pourrais vous donner des multiples exemples de voir des affaires que j'ai vues de mes propres yeux. Des personnes qui désobéissent à la loi des hommes. « Oh, ça n'arrivera pas. » Des fois, tu dis à quelqu'un, ça en va 120, 125. Mais peut-être devrait être moins pesant. « Oh non, ici en Ontario, ça m'est arrivé une fois avec un ami. On était en Ontario. « Oh non, en Ontario, ils sont très, très tolérants. » Il venait juste de dire ça. Ce qui était drôle, c'était ça. Il venait juste de dire, « Ici en Ontario, ils sont tolérants. » Il pogne un ticket de 200$. Ça avait tout ruiné son voyage. Là, après ça, il y a eu un baboon jusqu'à temps qu'on était rendu à Ottawa, puis il y a eu un baboon quand on a redescendu. Mais ça prouve une chose, c'est qu'il désobéissait. C'est un chrétien, à part de ça. Mais ça prouve une chose, que même comme chrétien, quand c'est marqué 100, là, c'est pas 120, c'est 100. Tu te fais arrêter, lamente-toi pas. Dieu a institué ça pour ça. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le verset 3? « Car les magistrats ne sont pas la terreur des bonnes œuvres, mais des mauvaises. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Pratique le bien et tu recevras de sa part de la louange. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu pratiques le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, vu qu'il est serviteur de Dieu, un vengeur, pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement à cause de la colère, mais à cause de la conscience. » C'est drôle parce que quand on a eu cette histoire-là, on était proche de... On était en train de rentrer sur le côté ontarien. Après que ça a été fini, j'ai eu envie de dire, mais... Vu qu'il était chrétien, mais... Je me suis dit, il a eu sa leçon. La semaine à me former à la trappe. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Deux applications. La première, c'est qu'on se doit de bénir le Seigneur qui règne sur tous les aspects de nos vies comme croyants. Il a déterminé le nombre de nos jours, il a déterminé nos succès et nos échecs, il a déterminé nos situations financières, il a déterminé notre santé, nos corrections, nos châtiments. Soyons donc rassurés et contents. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être entre de meilleures mains. Vu que c'est tout lui qui contrôle ça, il sait ce qu'on a besoin. et il contrôle les choses à la perfection. Deuxième application, rendons grâce à notre grand roi qui règne souverainement sur tous les gouvernements et sur tous les pays de la terre. Même si nous autres, des fois, on a l'impression que c'est tout eux autres qui mènent tout, là. Nous ne sommes pas abandonnés aux caprices et aux malices des dirigeants de la terre. Le Seigneur établit et destitue les autorités de la terre. Il contrôle les frontières des pays. Il juge les nations et leurs dirigeants. Et il utilise les nations à son gré pour sa plus grande gloire. On a-tu un grand Dieu? Alors, que notre grand et glorieux souverain Seigneur soit béni, loué et adoré pour l'éternité, pour son contrôle sur la vie des hommes, individuellement et collectivement.